la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la résistance. Avoir choisi le 27 mai pour célébrer la résistance n'est pas anodin. C'est en effet la date anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, la CNR, l'instance créée par la France libre autour de Jean Moulin pour donner plus de cohésion et d'efficacité aux différents mouvements de résistance française pendant l'occupation. Cette journée de mémoire a été décrétée en France par le Sénat et sa première édition a été 2014. Le site internet du Sénat précise que cette journée n'est ni fériée, ni chômée et que la commémoration pourrait permettre aux professeurs de consacrer une partie de leur cours au thème de la résistance et de la déportation. Il est curieux de noter que sur un thème en principe aussi fédérateur, la proposition n'a pas été adoptée à l'unanimité et qu'il s'est tout de même trouvé deux sénateurs pour voter contre. Rappelons-nous, en ce 27 mai, les valeurs humanisme, démocratique et patriotique qui inspirèrent le combat de la résistance qui s'inscrit dans le devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont combattu et souvent sont tombés pour la liberté. C'est aussi répondre aux besoins de mémoire que furent les drames et les luttes du passé dans un monde qui connaît toujours les guerres, le racisme toutes ses formes, la xénophobie, les atteintes aux libertés et la dignité humaine, la torture, la résurgence du fascisme contre lequel il faut poursuivre le combat que menèrent les résistants. Dès l'été 1940, à l'extérieur du pays, l'appel du général de Gaulle, lancé depuis Londres le 18 juin, allait rassembler autour de lui les premiers Français libres, tandis que sur le sol national occupé, des femmes et des hommes allaient refuser la capitulation, l'occupation, l'assassinat de la République et la suppression des libertés, affirmer leur volonté de poursuivre le combat. La journée nationale de la résistance complète d'autres temps mémoriels importants comme le 8 mai, consacré à la victoire des Alliés en Europe, ou encore la journée nationale de la déportation. Au sommaire de cette émission, nous recevons Alessandro Manzotti de l'association Bloom, où nous allons parler de l'enquête sur l'alliance entre le Parti Populaire Européen, l'extrême droite européenne et le mouvement MAGA. Il sera interviewé par Zoé. Du côté du Zoom, ce sera Félix Zillon, délégué général de l'école TOT, les 10 ans de l'école TOT, une asso qui accompagne les exilés, vendredi 29 mai au Sample, et elle sera interviewée par Betty. Le Flash Info sera réalisé par Lia. La chronique Actu, ce sera Rachel avec la mise en vente de l'ancienne prison de Caen. Et enfin, du côté de la chronique libre, ce sera Greg qui vous donnera ses astuces et conseils. Et tout de suite, c'est l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et ce soir, nous recevons Alessandro Manzotti de l'association Bloom au sujet de l'enquête sur l'alliance entre le Parti Populaire Européen, l'extrême droite européenne et le mouvement MAGA. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Et donc vous serez interviewé par Zoé. Bonjour, je te laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas plus tard qu'hier, une nouvelle alliance a fait basculer l'hémicycle avec l'adoption du très controversé règlement retour. Ce texte, qui durcit drastiquement les conditions d'expulsion dans la régulation des mouvements migratoires, a dessiné une configuration inédite. Une coalition de circonstances, ou non, portée conjointement par le PPE, soit le parti de droite européenne, et les voix de l'extrême droite. Cette convergence ne relève pas de la simple opportunité électorale. Derrière ce glissement structurel se cache une offensive idéologique globale, fortement influencée et financée selon l'association Bloom, par le mouvement MAGA, venu des États-Unis. Pour comprendre la radicalisation du PPE et sa porosité grandissante avec l'extrême droite, nous recevons aujourd'hui un membre de l'association Bloom, Alessandro Manzotti, doctorant en biologie moléculaire, mais aussi chargé de recherche et de plaidoyer dans l'association. Alors d'abord, peux-tu nous en dire plus sur l'association Bloom, ses valeurs, ses missions et ses combats ?
Bien sûr. Donc, pour qui ne nous connaît pas, Bloom, c'est une ONG fondée en 2005 qui a comme objectif de défendre et protéger les océans, ses habitants humains et non humains, et protéger en même temps aussi le climat. Vu que tous les règlements environnementaux plus importants sont décidés au niveau européen, même si on est basé à Paris, on est très très active à Bruxelles auprès des institutions européennes. Et pour cette raison, on est aussi très active sur tous les sujets de bonne gouvernance, transparence et lutte au pouvoir des lobbies industriels. Parce qu'on est bien conscient que pour pouvoir défendre comme il faut et de manière efficace la planète, il faut aussi défendre une démocratie qui soit saine et active et en bonne santé.
Très bien. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est la convergence des idées entre le PPE, les partis d'extrême droite européens et MAGA, est-ce que tu peux nous présenter ces divers acteurs ?
Bien sûr. Donc, pour qui ne connaît pas le fonctionnement des institutions européennes, qui sont très souvent assez opaques, assez fumeuses, au niveau du Parlement européen, qui est un des trois co-législateurs au niveau européen avec la Commission et le Conseil européen, on a que les députés élus par les citoyens s'y regroupent dans des groupes politiques en fonction de leur affinité politique, bien évidemment. Donc on trouve le groupe des Verts, le groupe de la gauche radicale, le groupe des socialistes, etc. etc. Et en particulier au niveau de la droite européenne, on trouve les PPE, donc les partis populaires européens, la droite modérée où siège par exemple le député français de Les Républicains. Plus à droite du PPE, on trouve ECR, donc les conservateurs où siège par exemple le député italien de Meloni. Encore plus à droite, on trouve les Patriotes, où on trouve le Rassemblement national et aussi les députés de l'Hongrois Orban. Et à toute l'extrême droite du Parlement européen, on trouve les groupes de nations souveraines, où on trouve par exemple la Alternative für Deutschland, donc le parti d'extrême droite allemand. Et donc nous, on s'est penché dans notre enquête à vérifier, analyser, enquêter comment ces derniers mois, le PPE, donc le parti qui devrait être plus conservateur, modéré, s'est allié ouvertement et explicitement avec les partis de l'extrême droite d'une manière inouïe et historique.
Très bien. Alors, justement, vous suivez de très près les politiques publiques européennes et récemment, nous avons assisté à des votes majeurs comme le règlement Omnibus en novembre 2025 ou le report de la loi déforestation validé par justement une majorité alternative qui associe PPE de Manfred Weber et les groupes d'extrême droite. Et en quoi ces votes marquent-ils une rupture historique dans le gouvernement européen ?
Il s'agit justement d'un acte inouï, jamais vu auparavant au niveau européen, parce que depuis la fondation des institutions européennes, il y avait en vigueur un tacite cordon sanitaire, donc un accord entre les partis pro-européens, dont les PPE, mais aussi les socialistes et tous les partis progressistes, pour ne pas donner les pouvoirs et les poids politiques aux partis de l'extrême droite. Donc les conservateurs dont je parlais tout à l'heure, les patriotes, etc. C'est là parce que ces groupes d'extrême droite sont intrinsèquement contraires au projet européen. Ils sont menaces aussi pour l'état des droits de l'Europe. Donc jusqu'à là, les partis qui se disaient pro-européens et en faveur du projet européen avaient fait barrage contre ces partis et groupes d'extrême droite. Sauf qu'avec les élections européennes de 2024, les partis d'extrême droite ont obtenu un poids jamais vu auparavant et donc beaucoup plus d'influence au niveau européen. Et les PPE, donc les conservateurs modérés de droite, qui peuvent décider où faire la bascule et si s'allier avec les partis progressistes, socialistes, verts, etc., ou si faire tomber les cordons sanitaires et donc s'allier avec l'extrême droite, ont décidé de faire ces pactes avec les diables et tisser une alliance ouverte et déclarée de manière plus ou moins explicite avec l'extrême droite. Surtout pour démanteler les règlements environnementaux et les règlements sociaux acquis dans la dernière législature.
Et donc cette alliance, selon vous, elle est teintée de l'empreinte MAGA. Comment se fait-il et en quoi ?
En fait, on peut dire que cette union des droites, version européenne, version bruxelloise, va totalement dans l'intérêt de Trump et de son mouvement MAGA, donc Make America Great Again, parce que ça donne les pouvoirs et l'influence politique à sa contrepartie européenne. Donc tous ces partis et ces groupes d'extrême droite que je viens de nommer, grâce à une légitimité et une approbation politique de la part de la droite modérée normalement pro-européenne qui jusqu'à là avait fait barrage à ces groupes. Donc, cette alliance en soi donne une nouvelle influence, un nouveau poids au mouvement MAGA trumpiste, donne aussi une nouvelle influence, un nouveau poids à tous les groupes auparavant marginalisés de l'extrême droite, et donc crée cette internationale qu'on peut souvent définir même néofasciste, en tout cas obscurantiste, transatlantique. Et en plus d'être un alignement d'intérêts, un alignement d'idéaux politiques, on a aussi, grâce à des articles de journaux internationaux comme Politico, comme Financial Times, etc., que l'administration Trump ne souhaite pas simplement la création de cette union des droites européennes, mais prête explicitement à financer toutes les organisations, think tanks, fondations d'extrême droite et réactionnaires qui travaillent derrière les rideaux, disons comme ça, derrière la lumière des médias pour alimenter la rhétorique et la narrative d'extrême droite en Europe, et qui travaillent d'arrache-pied pour fusionner et créer cette alliance des droites modérées et d'extrême droite.
Et alors, comment vous expliquez la montée de l'extrême droite à l'échelle européenne ?
Et bah, malheureusement, on peut presque dire que c'est l'histoire qui se répète. Pour qui connaît un tout petit peu l'histoire du XXe siècle, on a vraiment l'impression de se retrouver dans les années 20-30 de 1900, parce qu'on se retrouve globalement dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes processus politiques. On a une montée des discours populistes, des discours extrémistes vers l'extrême droite, et donc aussi des discours nationalistes alimentés et qui trouvent leur terrain fertile dans une période de crise et d'instabilité économique et sociale, et qui arrive petit à petit à gagner du consensus de la part de la population, à par conséquent grignoter petit à petit la majorité, ou en tout cas les voix qui sont normalement portées à une droite plus modérée. Et les vrais problèmes pour nous, c'est justement pas seulement et pas tant l'extrême droite qui fait entre guillemets son travail d'extrême droite. Le problème, c'est la droite modérée, donc le PPE, donc les Républicains en France, qui, à la place de faire barrage contre cette montée de mouvements populistes et extrémistes, essaye de manière très peu stratégique, si je peux me permettre, de essayer de rattraper l'extrême droite sur son terrain. Et donc, à la place de faire une vraie politique alternative des droites, mais modérée à l'extrême droite, ils finissent par se radicaliser eux-mêmes et s'allier à l'extrême droite. Sauf que quand ils finissent par jouer dans les terrains et dans dans la dynamique propre à l'extrême droite, ils finissent par perdre et donner encore plus de poids aux mouvements plus radicaux et obscurantistes dans une pente glissante très très dangereuse. Et c'est exactement ce qu'on voit en France, on la voit en Italie, on le voit maintenant à Bruxelles au niveau des institutions européennes.
Très bien. Et d'ailleurs, pour en revenir aux faits concrets, en octobre et en novembre, cette alliance a voté l'exemption de nombreuses entreprises, des obligations de reporting environnemental. Le PPE et les industries défendent ces reculs au nom de la compétitivité et de la réduction de la paperasse, avec un objectif affiché de moins 30% pour les PME. En tant qu'ONG environnementale, comment le Bloom répond-elle à cet argument économique qui semble sceller l'alliance entre la droite traditionnelle et les nationalistes ?
Oui, disons qu'à ce moment, le mot d'ordre au niveau européen, c'est simplification, c'est compétitivité, c'est croissance économique. Avec cette excuse de la croissance coûte qu'il coûte et de la simplification pour les grandes entreprises, on est en train de démanteler tous les règlements environnementaux, mais aussi sociaux, qui ont été construits avec un long travail démocratique dans les précédentes législatures européennes, parce qu'ils sont considérés comme un poids administratif excessif, un obstacle à la croissance des entreprises, à leur compétitivité, etc. Si c'est vrai que le surplus, la surabondance administrative, c'est un fléau à résoudre, parce que personne ne veut un surplus de paperasse et de bureaucratie, même les écologistes, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'avec cette excuse de la simplification administrative, on coupe au cœur des législations qui sont censées protéger l'environnement, les citoyens européens, leur santé et la santé aussi des citoyens de l'Ouest du monde. Donc c'est toute une excuse portée par la droite alliée de lobby industriel et de lobby économique pour démanteler tout ce qui fait barrage en croissance déréglée des puissances économiques, des puissances commerciales, à tout dommage de citoyens et de leur santé et de l'environnement.
Eh bien, merci Alessandro Manzotti. On va faire une petite pause musicale et on écoute Da Baby, Pop That Gang.
Let's go.
Got the world in her hands. She make it twirl when she dance. Yeah, I got the world in my hands. I got your girl in my pants. Yeah, you know I love the way you move. I do. You with your girl today is cool. For you, I ain't got no problem waiting on my turn. Teach me how to turn you to my bae and I'ma learn. If I don't feel like going out, I'ma wait on my turn. Go the other way. Ain't even finna lie. The way that booty moving in the dress, I'm finna ask you if you wanna fuck today. Consume me if I try. Bitch nigga acting like a shooter, but he not. Rich nigga, I can come and move you out your spot. It's simple. I ain't finna do the shit that I do for you if I was out here trying to do it for a thought. So.
Spread that shit, you know what I'm saying? You know. Yeah. Yeah, fuck me like a slut, you know what I'm saying? Let's go.
Got the world in her hands. She make it twirl when she dance. Yeah, I got the world in my hands. I got your girl in my pants. Yeah, you know I love the way you move. I do. You with your girl today's cool. For you, I ain't got no problem waiting on my turn. Teach me how to turn you to my bae and I'ma learn. Suck that dick, put your hands on the meat. Ride my dick till your legs get weak. Put your legs on the headboard, baby, make a mess. Let me see if you can spread on the sheets. Talk that shit, baby, say what's on your brain. Say my government and tell the neighbors know my name. With the jewelry on, yellow bracelet and the chains.
Let it clap, ride this new while you sit on my lap. Random cheese, let me see that hoe. Shake that ass like you out of control. Fuck that thing till your throat gets sore. Bend it on down, put your face on the floor. Fuck that shit till your legs can't stand. High freak bitch with the wood in her hand.
C'était Da Baby, Pop That Thang.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Alessandro Manzotti de l'association Bloom. Et nous parlons de l'enquête sur l'alliance entre le Parti Populaire Européen, l'extrême droite européenne et le mouvement MAGA. Et Zoé, je te laisse la parole.
Alors très bien, deuxième initiative de l'alliance entre l'extrême droite européenne et le PPE. Le 9 mars, la Commission des libertés civiles a validé le règlement retour. Ce règlement prévoit des mesures choc. Création de centres de rétention hors UE, possibilité d'expulser vers des pays tiers sans lien avec le migrant et facilitation des perquisitions policières dans les lieux d'accueil. Des experts comme Sarah Chander affirment que l'UE met en place un cadre similaire à l'ICE américaine, soit le service de l'immigration. Alessandro, partages-tu ce constat d'une américanisation de la répression migratoire en Europe ?
Oui, justement, on peut presque dire que cette nouvelle et inédite alliance entre la droite conservatrice et l'extrême droite au niveau européen est en train d'importer dans les vieux continents la rhétorique, le narratif et aussi les stratégies politiques du mouvement de Trump. Que ce soit sur les questions migratoires, comme on l'avoue avec le règlement que tu viens de mentionner, ça peut être aussi sur les questions de régression environnementale et de lutte au progrès législatif en faveur de l'environnement. Ça peut être sur les questions de répression aussi des minorités de tout type et de tout bord. Et en particulier, ce qu'on montre dans notre enquête, c'est qu'il y a un alignement des deux côtés de l'Atlantique pour ce qui concerne les attaques et les offensives contre la société civile, donc les associations et les organisations non gouvernatives, que ce soit des organisations environnementales, pour la défense des droits, pour la défense des migrants, etc. Donc il y a vraiment un acharnement et une attaque constant en modalité simil-Trump amené en Europe par cette alliance. Mais sans aller trop loin, on pourrait trouver que ce type de dynamique, ce type de stratégie était déjà en place dans des gouvernements libéraux européens comme dans l'Hongrie d'Orban ou dans l'Italie de Meloni, malheureusement.
Donc le mouvement MAGA a une influence sur l'Europe et d'ailleurs avant tout s'est présenté comme un projet culturel rejetant le libéralisme, l'état de droit et les contre-pouvoirs. Retrouves-tu cette même rhétorique de guerre culturelle dans les attaques du PPE et de l'extrême droite européenne contre l'écologie et les institutions de l'Union européenne ?
Oui, tout à fait. En fait, on peut voir écrit noir sur blanc que le gouvernement Trump veut instaurer une forme de ce qu'il appelle son administration résistance interne en Europe, comme il a mentionné son administration dans la stratégie de sécurité nationale de 2025. Un document choquant où le gouvernement de Trump a déclaré carrément de vouloir d'une certaine manière interférer avec la politique européenne pour influencer notre législation et notre politique européenne. Et donc il s'agit d'une vraie trumpisation de nos politiques.
Et avec cette coalition entre la droite et l'extrême droite, quel type d'Europe devons-nous attendre d'ici la fin de la mandature 2029 ? L'Europe risque-t-elle, comme le craint votre enquête, de devenir la cible politique finale d'un agenda post-libéral mondialisé ?
Malheureusement, oui, on court ces risques, mais rien n'est écrit dans le marbre, parce qu'il s'agit d'une dynamique qui est en cours de se développer, mais qui n'a rien d'inéluctable. Le PPE reste et est toujours le plus grand groupe politique en Europe. Il reste un groupe politique qui s'est défini au moins dans les principes pro-européens, pro-État des droits et pour la défense du projet européen. Et même au sein du groupe PPE, pas tous les députés sont si alignés que ça avec la ligne éditoriale, si on l'appelait comme ça, donnée par la présidence de Manfred Weber et de son cercle proche qui pousse et qui prône pour cette alliance avec l'extrême droite. Donc c'est pas du tout inéluctable. On n'est pas destiné à se retrouver avec une Europe sombrée dans un nouveau fascisme, un nouveau régime autoritaire et libéral. C'est par contre important que les décideurs politiques, surtout ceux qui sont en train de mener cette alliance du côté de la droite modérée, se ravise, se reprend, il termine avec ce cauchemar de descente aux enfers et reprend en main les destins de l'Europe et il décide de casser définitivement cette alliance avec l'extrême droite pour reconstruire le cordon sanitaire qui est tombé ces derniers mois. Vraiment, il n'y a rien d'inéluctable, rien de décidé, donc tout est encore à écrire. Et dans ça, les citoyens et les électeurs européens ont un rôle bien évidemment majeur, crucial à jouer.
Et comme tu le dis d'ailleurs, le cordon sanitaire a totalement sauté. Bien que les Européens ont un rôle à jouer. Mais comment analyses-tu la stratégie à long terme du PPE ? S'agit-il d'une alliance de circonstances pour un vote ou d'un projet de changement de régime politique profond à l'échelle européenne ?
Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve vraiment dans une dynamique tristement et impressionnamment similaire à ce qu'on voyait dans les années 30 du siècle dernier. Donc, on peut presque dire que le PPE en ce moment est en train de glisser vers l'extrême droite pour un manque de vision stratégique, je trouve. Vraiment, ils essayent de récupérer les voix perdues en faveur de l'extrême droite en jouant sur le terrain de l'extrême droite. on sait, on voit que le PPE même, que la droite conservatrice un peu plus modérée, craint fortement l'ascension au pouvoir de l'extrême droite parce qu'ils sont une menace pour les projets européens, pour les projets de l'État d'État des droits européens et pour la droite conservatrice elle-même. Donc malheureusement, et heureusement à la fois, il ne s'agit pas d'un projet profond de transformation de l'Europe et de ses fondements démocratiques. Il s'agit vraiment d'une mauvaise stratégie, d'un échec stratégique global de la part du PPE. Mais c'est là aussi rien d'inéluctable. Tout est encore en jeu pour que la direction de l'histoire change de cours.
Et par ailleurs, selon deux chercheuses de Sciences Po Paris, dans un article intitulé « L'Europe est-elle menacée par les partis d'extrême droite ?», Nona Mayer et Katerina Froyo observent une montée d'un certain populisme qu'elles désignent comme étant les partis de droite radicale populiste. Ces partis allient une rhétorique anti-migratoire et anti-establishment avec une opposition de la mondialisation qu'ils présentent comme une triple menace économique. Les migrants nous volent nos emplois, entre guillemets, culturels, ils ne respectent pas nos valeurs, toujours entre guillemets, et politiques, la souveraineté de l'État-nation est en danger. Cette opposition s'explique par la déstabilisation et la mise à mal des piliers de l'identité de la droite radicale populiste, le nativisme, le nationalisme et l'homogénéité culturelle. Est-ce que tu penses que le PPE fasse partie de cette catégorie de droite radicale populiste ?
Justement, pas du tout. Il s'agit d'une... D'un groupe qui est normalement et historiquement opposé à toutes ces dérives qui ont été l'ombre noire de l'histoire européenne du XXe siècle. Ils se sont normalement opposés à ces politiques radicales et populistes pour favoriser une politique sûrement des droites, mais plus modérées, et surtout une droite classique qui défend les intérêts de puissance économique, etc., mais qui ne veut pas briser en profondeur l'état des droits, les droits des citoyens, ou jouer sur un terrain purement de populisme radical. Donc là aussi, on trouve qu'il y a un petit peu d'espoir. On voit partout en Europe, comme dans le reste du monde, un glissement de ces partis, oui, maintenant vers des positions radicales et populistes, mais on espère que, en s'agissant de, on espère, les plus importants cerveaux politiques d'Europe et du monde, ils aient la conscience, l'intelligence et la vision historique pour voir qu'ils sont en train de reproduire les mêmes erreur du passé, et donc de faire un changement de cap radical et revenir sur leurs pas et rétablir un nouveau équilibre européen qui soit durable dans les temps et qui soit basé à nouveau sur une reconstruction du cordon sanitaire.
Et comment pourrait-on alors rétablir cet équilibre et cette reconstruction du cordon sanitaire ?
Belle question. Si vous avez une réponse, je suis totalement preneur. Disons que nous, Bloom, dans notre petit, on essaye de réorienter justement sur le bon chemin les PPE et avec eux tous les décideurs politiques qui glissent vers des positions anti-écologistes, radicaux de droite, populistes, etc., en dénonçant et en mettant en évidence ces glissements et en essayant de... si on peut dire comme ça, les casser un peu de l'intérieur. Parce que, comme je disais, ils ne sont pas un bloc uniforme, monolithique, en faveur de ces glissements vers l'extrême droite. Il y a des très très fortes tensions en ce moment au sein de partis des droites modérées en Europe qui n'acceptent pas de manière univoque cet abandon vers l'extrême droite. Et donc, ce qu'on fait, nous, dans notre appétit, c'est de déjà dénoncer et mettre en évidence ce qui passe et obliger, avec les bonnes ou mauvaises manières, si on veut dire comme ça, avec la force ou avec la conviction, ces groupes à revenir sur leur pas. On n'est carrément pas amis avec ces groupes politiques. On est normalement et historiquement, en tant qu'organisation écologiste, pas seulement Bloom, tout en général, très souvent un conflit avec ces groupes politiques modérés de droite, mais il y a un dialogue. Quand le dialogue devient impossible parce qu'il se allie avec l'extrême droite, bah, nous on passe aussi à la contre-offensive et donc on va les obliger à revenir sur leur pas. Voilà.
Merci beaucoup, Alessandro.
Eh bien, merci Alessandro Manzotti, merci Zoé. Et tout de suite, c'est le Flash Info présenté par l'IA.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous. Vous devez évacuer vos maisons immédiatement. Alerte cet après-midi du porte-parole de l'armée israélienne. Il appelle à quitter la ville de Tyr et ses environs, située dans le sud du Liban. En effet, des attaques visant le Hezbollah viennent de débuter. Le premier ministre israélien l'annonçait hier. Benjamin Netanyahou veut une intensification des opérations militaires, et ce, malgré la trêve en cours. En Iran, le cessez-le-feu est aussi compromis. Le pays accuse les États-Unis de l'enfreindre. Donald Trump a réuni les membres de son gouvernement cet après-midi. L'objectif, évoquer l'avancement des discussions avec Téhéran. On attend les déclarations du président américain. Une liste noire pour lutter contre les violences à l'école, annonce aujourd'hui du ministre français de l'Éducation nationale. Édouard Geffray présentait le projet de loi de protection de l'enfance. Alors, qui figurera dans cette liste? Les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec les mineurs. Cela empêchera toute forme de réemploi au sein de l'école, y compris s'il n'y a pas eu condamnation. 37, 38 et même 39 degrés, ce sont les températures annoncées par Météo France pour demain. Au total, 17 départements seront en vigilance orange canicule, dont Paris et sa petite couronne. Cette vague de chaleur inédite traverse une partie de l'Europe. Un rappel brutal, je cite, du changement climatique, d'après un responsable de l'ONU. C'était le 19 octobre 2025, cambriolage au musée du Louvre. Un scénario comme au cinéma, et ça tombe bien, le réalisateur français Romain Gravas va faire un film. Des bijoux de la couronne à l'arrestation des suspects, ce long métrage s'inspire d'un livre enquête, Main basse sur le Louvre, paru en mai dernier. Et alors, concernant le titre, la date de sortie et le nom des acteurs, le mystère n'est pas encore levé.
Eh bien, merci Ilia pour ce flash info. Et tout de suite, on écoute Ruby de Rims.
Think of my dreams will come out when I do my thing like King La Hula. I've been envisioning in 8 a.m. all of my dreams rotting La Hula. Prophecies to meet in bed, writing them down in case they true love. Don't need to trip on no, what if I do, like there's no trip, no solo. Think of my dreams will come out when I've been envisioning in 8 a.m. Prophecies to meet in bed, writing them down in case they true love. There's no trip, no solo. I had the vision of mine. Since a little girl pressing on keys and an old time rhyme. Suddenly then who I'm gonna be? No change in time. And then you wake back when all my gold and my shine. Been dreaming like me, tryna get in my groove, no nickel, no dime. And then you wake back when all my gold and my shine. Been dreaming like me, tryna get in my groove, no nickel, no dime. When all my gold and my shine. Been dreaming like me, tryna get in my groove, no. Said it's an ethical thing, I swear I see the signs that people don't. Trust I got a feeling, if no feeling then I won't. Swear I saw something in dream, it came to me and spoke. Swear I saw some things in dreams, I take out things on wrong. Think of my dreams will come out when I've been envisioning it, yeah. Prophecies to me in bed, writing them down in case they true love. There's no dream, no solo. Think of my dreams will come out when I do my thing like King La Hula. I've been envisioning it, yeah. Dreams floating in the hula. Prophecies to me in bed, writing them down in case they true love. Don't need to trip on no, what if I do, like there's no trip, no solo, no.
Sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Rachel. Bonjour Rachel, tu vas nous parler de la mise en vente de l'ancienne prison de Caen.
Oui, bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Si jamais certains ou certaines d'entre vous étaient prêts à investir, sachez que l'État met en vente un, je cite, « ensemble immobilier composé d'un bâtiment en forme de croix inversée comportant quatre ailes reliées entre elles par une rotonde centrale ». Donc, plus de 18 000 m² de terrain en plein centre-ville de Caen, une grande cuisine au sous-sol, environ 300 chambres, dont 5 bien cachées près de la cuisine, avec toilettes et lavabo au pied du lit. Et oui, c'est l'ancienne maison d'arrêt de Caen, fermée en 2023, qu'il est possible d'acheter en ce moment sur le site des cessions immobilières de l'État. Le fantôme de Guy Georges qui hante encore les murs en bonus. Les futurs projets doivent respecter un cahier des charges bien précis. Tout d'abord, prévoir 93 logements sur le site, dont 25% de logements sociaux. Ensuite, privilégier la conservation et la valorisation de l'édifice existant. Parce que même s'il est souvent plus rentable à court terme de tout raser pour tout reconstruire, le bâtiment ne pourra pas être entièrement détruit. Il doit notamment conserver la mémoire des 73 détenus fusillés le 6 juin 1944 par la Gestapo, enterrés, puis exhumés, puis chargés dans des camions allemands pour disparaître à tout jamais. Alors bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait de lieux autant chargés d'histoires et de fantômes ? En faisant mes recherches, j'ai découvert que beaucoup d'anciennes prisons étaient transformées en nouveaux lieux plus ou moins insolites. Musées, oui, immeubles, bibliothèques, universités ou même résidences étudiantes. C'est d'ailleurs rigolo quand on sait que les étudiants logés par le Crous sont souvent laissés dans les mêmes conditions que les détenus. Je vous invite à jouer sur crousouprison.com où vous devez classer des photos entre cellules de prison ou chambres de Crous. C'est très difficile. D'autres prisons sont transformées en hôtels de luxe où le récit carcéral devient un argument commercial pour des clients prêts à tout pour passer une nuit derrière les barreaux. Le Figaro en ligne a d'ailleurs un article de très bon goût nommé « 10 hôtels insolites installés dans d'anciens centres pénitentiaires » où, je cite, « les cellules, autrefois lieux de vie étroits et précaires, deviennent des chambres tout confort pour les touristes en quête de lieux insolites et chargés d'histoire ». C'est notamment le cas à Béziers, à l'hôtel La Prison, où la cellule, pour deux, est entre 114 et 228 euros la nuit. Cellule, c'est bien comme ça qu'ils appellent leur chambre, installée le long des coursives, avec encore les énormes portes et les barreaux. Sur leur compte Instagram, il est même proposé d'y faire ces photos de mariage insolites, avec des poses en cellule, au parloir ou accrochées aux barreaux. Une symbolique forte, finalement, pour s'enfermer dans un amour jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais n'ayez crainte parce que cette nuit derrière les barreaux reste une expérience luxueuse. Contrairement à la vraie vie carcérale, pas de surpopulation, pas de cafards, pas de rats, pas de punaises de lit, pas de moisissures, pas de toilettes au pied du lit, pas de nourriture dégueu, pas de plafond qui s'effondre comme à la maison d'arrêt de Rouen, ni de matelas par terre comme à Perpignan. Alors on ne sait pas encore comment l'ancienne maison d'arrêt de Caen sera transformée. Peut-être qu'on pourrait espérer un projet qui profite autant à la ville qu'aux habitants du quartier. Malheureusement, les visites du bien sont terminées, mais il vous reste encore jusqu'à vendredi midi pour déposer un dossier si l'envie vous vient. Et rendez-vous à l'automne 2026 pour connaître les lauréats et ce qu'ils auront prévu pour transformer ce lieu.
Eh bien, merci Rachel pour cette chronique sur l'hôtel prison, en fin de compte. Hein. Et tout de suite, on continue avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous recevons Félix Guyon, délégué général de l'école TOT. C'est comme ça qu'on prononce ?
C'est comme ça qu'on prononce,
accompagne...
oui.
C'est ça ?
Oui.
Une asso qui accompagne les exilés. Et ce sont les 10 ans de l'école TOT, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et vendredi 29 mai au Sample, vous le fêterez. Au Sample, c'est ça ?
Le Sample, tout à fait.
On dit Sample, hein ? Et donc, vous êtes interviewé par Betty. Je te laisse la parole.
Bonsoir Fabien, bonsoir Félix, merci d'être bonsoir. Avec nous. L'acronyme TOT veut dire transmettre un horizon pour tous. Mais c'est également une référence au dieu Thoth, le dieu de l'écriture qui incarne le savoir dans la mythologie égyptienne. En 2015, l'école TOT se crée avec comme objectif de proposer des cours de français diplômants, et c'est important, on y reviendra, délivrés par des formateurices professionnels à des personnes en situation d'exil, des demandeurs d'asile et des réfugiés franciliens. Comment est né le projet de l'école TOT ?
Alors, le projet de l'école TOT, il est né en 2015. Donc, il a été imaginé par trois femmes qui étaient engagées dans les camps de réfugiés. En 2015, il y avait eu des arrivées importantes de réfugiés avec les printemps arabes, la guerre en Syrie. Et elles ont fait le constat dans leur activité de bénévolat sur les campements parisiens que dans les forts besoins qui revenaient. Il y avait évidemment d'avoir un logement, à boire, à manger, mais aussi d'apprendre le français, d'apprendre la langue française. Et les cours bénévoles étaient très, très positifs, mais insuffisants pour pouvoir atteindre un niveau qui soit compatible avec une bonne intégration, une inclusion, une intégration sur le marché de l'emploi. Donc elles ont imaginé une vraie école avec des vrais cours par niveau, des vrais formateurs, formatrices dont c'est le métier, et autour de ça, de lever tous les obstacles à l'apprentissage, donc, parce que les personnes exilées ont traversé souvent des épreuves difficiles pour arriver en France et même en France. Donc elles ont imaginé tous les obstacles qui pourraient se poser sur l'apprentissage du français, et elles ont imaginé un dispositif avec une permanence sociale d'accès aux droits, une permanence psychothérapeutique, et plus récemment on a ouvert une garderie pour pouvoir garder les enfants en bas âge des femmes exilées qui n'ont pas de solution de garde. Voilà, en gros.
Très intéressant. C'est parce que du coup, ce qui est un peu important dans, et qui est caractéristique de votre école, c'est qu'elle est diplômante. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'éléments sur... parce qu'on connaît les cours de FLE, un peu classiques, etc. Mmh. Mais en quoi l'école TOT, avec son caractère diplômant, est... originale.
Elle est originale. En effet, on s'adresse à des personnes exilées, donc en situation de précarité, qui n'ont jamais eu de diplôme dans leur pays ou en France. Et donc, en fait, on leur propose de les accompagner dans l'apprentissage linguistique jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme. Donc, c'est les diplômes du DILF ou du DELF, les petits niveaux. Mais,
ça veut dire quoi, le DILF ou
alors,
le DELF?
Le DILF, c'est le diplôme initial de langue française et diplôme d'études en langue française. Donc, c'est un peu comme le TOEFL, mais côté français, et ça sanctionne un niveau de français, et c'est valable à vie et c'est reconnu internationalement. Donc ça va être très important parce que déjà c'est une ligne à mettre dans un CV pour pouvoir envisager une insertion professionnelle, et puis en termes de confiance en soi, de valorisation, c'est super important pour ces personnes-là, et donc c'est en ça que c'est original.
Et quelles sont les actions un peu différentes? Parce que du coup, vous avez dit qu'il y avait une école, mais je crois qu'aujourd'hui, vous êtes plus large que cette école. Enfin, vous êtes une association avec d'autres actions. Quelles sont les actions qui sont menées voilà, et comment a évolué aussi l'action de l'association depuis 10 ans, puisque vous fêtez vos 10 ans cette année?
Oui, tout à fait. Donc, il y a 10 ans, on a ouvert l'école. On avait 4 classes et 44 étudiants. Aujourd'hui, on est plutôt sur des promos de 6 classes et une centaine d'étudiants. Et voilà, on a à peu près 2800 personnes qui sont passées dans l'école en 10 ans. Et autour de l'école, on fait aussi des formations professionnelles, donc vers des métiers qui recrutent. On intervient aussi à la Maison des Femmes de Saint-Denis pour faire des ateliers sociolinguistiques. Voilà, on a tout un tas de projets toujours axés autour de l'apprentissage de la langue pour les personnes exilées, mais pour avoir une continuité de parcours sur les parcours d'intégration des personnes. Et puis à côté de ça, on a aussi des activités de plaidoyer où on défend l'accueil digne et inconditionnel de toutes et tous, et le droit à l'apprentissage du français. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans les politiques d'intégration, dans les lois immigration successives, on resserre toujours plus la vis et les exigences pour les personnes exilées. Et aujourd'hui, avec la dernière loi immigration, il faut avoir un niveau de français et un diplôme pour pouvoir accéder à des titres de séjour. Donc nous, on est contre ça. On pense que ce n'est pas... il faut prendre le problème dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est quand on parle bien la langue qu'on peut derrière correctement s'intégrer et pas dans l'autre sens. Donc on plaide pour un accueil digne inconditionnel sans avoir accès à des cours de français tout au long de l'existence et pas simplement sur les créneaux prévus par l'État. Et puis la dématérialisation aussi des cours de l'OFI, ça on est vraiment farouchement opposé que des gens apprennent le français avec une application et non pas face à une personne humaine, comme c'est assez intuitif de le concevoir.
Et qui s'adapte aussi à son niveau, voilà. Exact, parce que vous prenez aussi en compte le niveau des personnes quand elles arrivent et vous créez des groupes de niveaux, en fait.
Tout à fait. Ouais, c'est ça. Depuis on fait de l'alphabétisation et puis les petits niveaux A1, A2, voilà.
Super, super. Comment vous sont orientées les personnes? Enfin, c'est vous qui faites le recrutement. Comment ça se passe? Et si je suis intéressée, comment je peux m'inscrire?
Alors, on a un site internet où les personnes, où les travailleurs sociaux, les amis, les proches peuvent inscrire des personnes qu'ils ou elles connaissent. Mmh. C'est beaucoup des partenaires, des structures, des hébergements, qui orientent des personnes. Et ça marche aussi beaucoup avec le bouche à oreille des anciens étudiants qui ressortent plutôt avec une bonne expérience, qui sont satisfaits et qui orientent leurs amis, leurs proches, leurs conjoints. Voilà, donc ça marche comme ça. Et on a à peu près 300 candidatures à chaque session pour seulement une centaine de places. Donc la demande est forte et malheureusement, on ne peut pas donner une place à chacun, mais on essaye de faire d'autres orientations derrière avec le réseau assez dense de toutes les associations et structures d'apprentissage du français à Paris et en Île-de-France.
Comme le disait Fabien, donc vous êtes venu pour nous parler de la grande fête des 10 ans qui va se passer au Sample et non au Sample.
Je l'ai dit en
à
anglais.
À Bagnolet. Donc ça a lieu vendredi à partir de 13h30 si je ne m'abuse. Pourquoi avoir organisé en fait ce moment? Il sert à quoi? C'est pour faire connaître l'association, fédérer, enfin voilà, expliquez-nous un peu tout ça.
Tout à fait, ouais, c'est pour faire connaître l'association, fédérer, et en fait c'est parti de l'envie de fêter, de célébrer ces valeurs qu'on défend, d'accueil inconditionnel, d'ouverture à la différence, à la diversité comme des richesses. Ça semble bisounours comme ça de le dire, mais en fait, dans un contexte où les discours de racisme et de rejet de l'autre gangrènent vraiment l'espace médiatique et politique, on aurait tendance à être prudent, à pas trop s'exposer. Nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on assume ces valeurs-là, c'est des belles valeurs, c'est ça qui fait qu'on a une société française qui est vivante, c'est ça qu'on défend. Donc on a voulu célébrer ça et ne pas se cacher et l'assumer, et donc organiser cette belle fête avec un aspect militant, des tables rondes, des discussions sur toutes les thématiques qui nous rassemblent, et aussi un aspect festif avec une fanfare, de la danse, des super concerts, enfin, ça va être très riche.
Donc je peux m'attendre en tant que spectateur, spectatrice, à venir à tout à la fois faire des ateliers sur tout un tas de thématiques, j'imagine.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner des petites exclus, des petits noms
des petits noms, je ne sais pas. Mais oui, il va y avoir notamment des cours inversés où c'est okay. les étudiants, les anciens étudiants qui vont donner des cours de leur langue d'origine. Donc ça permet à nous qui parlons français très bien de faire l'expérience de l'apprentissage d'une langue difficile telle que l'arabe ou le pachto. On va aussi avoir une fresque de la migration qui est animée par l'association Kaboubou, qui fait de l'amitié par le sport pour les personnes réfugiées, donc de se mettre le temps de cette activité dans la peau d'une personne qui est en situation d'exil. On va avoir aussi des jeux, voilà, de la pétanque, du molki. Donc le Sample, faut s'imaginer, c'est un grand jardin avec des arbres et un endroit ombragé. Il fait bon, il fait frais, et donc c'est avec le temps qu'il fait, ça va être parfait. Mais voilà, sur les noms, on va avoir au niveau de la programmation, donc on a la fanfare féministe et féminine, les Mustangs qui vont jouer pour nous, et il y a le Swag Studio Belleville, atelier de danse qui va animer un atelier collectif pour chauffer un petit peu tout le monde, mais si c'est pas déjà le cas avec les 33 degrés, et puis ensuite on passe à la musique avec une famille afghane, Ibrahimi Ensemble, le Inkandaka Band, qui est In Delta Air, qui est une chanteuse soudanaise très, très engagée, très militante, qui chante très bien. Et puis DJ Diaki, un DJ malien qui n'est pas apparu en France depuis 2 ans, et le festival Sonic Protest, c'est son grand retour. Et voilà, il y a beaucoup de BPM dans l'intervention de DJ Diaki, donc ça va booster.
On est impatients d'y être. Comment on s'inscrit à cet événement immanquable?
Il faut par le biais des réseaux sociaux, en retrouvant la page de Tot, il y a tout un tas de posts qui vont vous donner le lien vers la billetterie et l'OASO, et sinon en pointant le bout de son nez vendredi entre 13h30 et 23h30 au Sample, 18 avenue de Bagnolet, donc c'est porte de Bagnolet, très très facilement accessible.
Super, bah merci beaucoup. C'était super intéressant. Je ne sais pas si Fabien, tu as des questions peut-être ou une interrogation ou tu as très
non,
envie
non,
d'aller
j'ai
vendredi.
J'ai toutes les infos nécessaires.
Okay. On se rejoint sur la piste de danse donc.
Tout
sur
à
le
fait,
dancefloor.
Tout à fait. Et donc, bien merci Félix Guillon, merci Betty. N'oubliez pas vendredi 29 mai d'aller au Sample, c'est ça
hein? C'est ça. Ouah,
je
ouais.
suis trop fort. Qu'est-ce que je suis fort. Et tout de suite, on écoute Miezze Conte, Nanana. Ça réveille, ça. C'était Miezze Conte, Nanana.
La matinale de 19h.
Et nous terminons la matinale avec Greg. Greg, bonjour.
Bonsoir.
Tu vas nous partager tes astuces et conseils.
Eh ben ouais, aujourd'hui, comme je me sens d'humeur généreuse, j'ai décidé de donner des tips à nos auditeurs et auditrices. C'est important de transmettre, enfin sauf pour les MST. Et comme je fais partie des personnes âgées de la radio, j'ai mis des guillemets, Fabien, toi-même tu sais, je me dis qu'on peut peut-être aider des plus jeunes à éviter certains pièges de la vie. Alors mon premier conseil s'adresse à celles et ceux qui attendraient un enfant ou qui envisageraient d'en faire un dans les années à venir. Ne l'appelez pas Patrick. Là, je sais, vous vous dites, mais pourquoi il te parle de ça? C'est bizarre. Enfin, qui voudrait appeler son gosse comme ça en 2026? Oui, je vous rejoins, c'est pas moderne, à l'oreille, c'est pas ouf. Mais je préfère sortir le red flag, car il semblerait qu'un sort ait été jeté sur ce prénom, empêchant tout porteur de maîtriser son pénis. Une entité démoniaque, un peu bourrée, a dû se dire, tiens, je vais rendre incontrôlable la bite de tous les... Ah, elle a pris son calendrier et son doigt s'est posé sur, bam, la Saint-Patrick, dans un chaudron... Elle a mélangé de la bave d'Émile Louis et des poils pubiens de Michel Fourniret, puis tout dilué avec un œil de Guy Georges et hop, l'affaire était pliée. Et depuis, les exemples confirment que malheureusement la malédiction fonctionne. Bruel, Poivre d'Arvor, Patrick Sébastien, sans oublier Patrick Tissier, dit l'ogre de Perpignan, violeur en série pendant 20 ans. Même Patrick l'étoile de mer, meilleur pote de Bob l'éponge, je serais pas serein à l'idée de me balader en petite tenue à côté. Alors après, peut-être que ce n'est pas lié à une incantation et que ce prénom est maudit par essence. Ben ouais, on entend quoi dans Patrick ? Ben on entend pas de trick. Donc on parle de quelqu'un qui, selon son prénom, ne peut pas avoir d'érection. Donc quelque part, il y a une logique à ce que c'est pauvres hommes émasculés veuillent prouver à tout prix le contraire. Mais ça, ça ne donne pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Enfin, je sais pas, les femmes qui peuvent pas avoir de gosses se mettent pas à la sortie des crèches pour kidnapper des enfants. Ce qui m'amène à mon second conseil. S'il vous plaît, messieurs, évitez au maximum de violer des gens. En fait, si vous sentez que votre zizi a toujours envie de se balader à droite à gauche, qu'il tient pas en place, bah déjà rappelez-lui que c'est vous hein, qui commandez. Et puis si malgré ça, il continue à casser les couilles, bah vous lui fixez des règles claires. S'il aime bien être au chaud ailleurs que dans un slip, bien sûr que vous pouvez lui offrir un habitat extérieur. Mais encore, faut-il y être autorisé par la personne qui reçoit. Je sais pas, quand vous louez un Airbnb, bah, vous envoyez un message au proprio qui accepte de vous mettre à disposition son logement et qui donc finit par vous donner les clés. Vous débarquez pas dans l'appart en défonçant la porte, non? Ben voilà, quand on veut mettre son sexe ailleurs que dans son slip, ben on doit passer par exactement les mêmes procédures. Enfin, je pense que si on y arrive pour un appart, ça doit quand même être possible pour un petit corps spongieux. Ah ben malheureusement, on arrive au bout de cette chronique, alors que j'avais encore plein d'autres tips à donner, entre autres concernant le fait de ne pas donner son avis hein, quand personne ne l'a demandé. Il y a des choses qu'on doit demander, hein, comme le consentement, ça, ok. Mais son avis, on peut parfois le ranger dans son slip, bah à côté de son pénis, hein, du coup. Donc sinon, si vous avez encore des envies de tips, bah n'hésitez pas à m'écrire hein, sur Insta, Merlin le raconteur, un peu de pub. Et en attendant, l'ultime conseil vraiment, c'est s'il vous plaît, faisons tous et toutes en sorte de vivre ensemble dans le respect de chacun. Bah normalement, rien qu'en appliquant ça, on devrait régler pas mal de problèmes.
Eh ben merci Patrick. Ah non, Greg, pardon.
Waouh, chaud.
Merci Greg. Et c'est la fin de la matinale. Non ? Si ? Ça part pas ? C'est la fin de la matinale. Et donc on remercie Alessandro Manzotti de l'association Bloom, on remercie Zoé, on remercie Félix Guillon, le délégué général de l'école TOT, qui a été interviewé par Betty. On remercie Lia pour le Flash Info, Rachel pour la chronique Actu et Greg pour sa chronique libre. La réalisation était réalisée par Aude, la coordination par Aude et Jeanne. Demain, on retrouve Maya Barou pour le festival franco-japonais Yokai Matsuri. On retrouve Paul-Émile Pacheco, assistant de la commissaire de l'exposition Limilaire au Musée d'Art Moderne. À suivre le Monde Zygomatique. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9 FM. We'll be right back.